Bonjour et bienvenue à la Maison du développement durable pour cette causerie sur la tournée en communauté avec le Festival international Présence autochtone de Montréal 2022. Donc, une causerie qui s'annonce bien intéressante et dynamique et je vous présente celle qui sera votre animatrice pour aujourd'hui, Caroline Nepton-Hott, professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole et bon événement.
Merci, merci. Kwe Kwe, bonjour. Kwe Kwe. Il me fait plaisir aujourd'hui de participer à cette causerie qui se veut conviviale, bien sûr, avec nos invités. D'abord, qui prendra la parole, Monsieur Xavier Huard, qui est diplômé à l'École nationale de théâtre du Canada depuis 2013, qui a participé à de nombreuses productions au théâtre et puis au cinéma. Il a cofondé avec Marco Collin, l'acteur Innu de Mashtoyat, la communauté d'où je suis originaire, et Charles Bender, qui est Wendat également, la compagnie Menwendagwan, qui veut dire, monsieur Huard, Menwendagwan, hein? C'est prendre le thé.
Oui, on peut traduire par prendre le thé. La nouvelle génération, des fois, l'utilise pour dire c'est le fun, on est bien.
Okay. Les jeunes ont transformé un petit peu la langue. Donc, c'est un organisme d'une compagnie de théâtre qui dirige depuis quelques années, déjà c'est ça, 2015, qui co-dirige également toujours aujourd'hui. Et puis, il enseigne également au département de scénographie à l'École nationale de théâtre du Canada. Donc, bonjour Xavier, merci pour cette belle traduction. Il y aura également avec nous Sébastien Almond. Bonjour, Kwe Kwe.
Bonjour.
Il est directeur des opérations artistiques et du développement international de l'Orchestre symphonique de Montréal. Il assure depuis 2008 la direction des tournées de l'orchestre. Donc, depuis cette date, il a organisé 14 tournées et des sorties internationales, ainsi que deux tournées au Nunavik, l'une en 2008 et l'une en 2018. Vous allez voir, en fait, que les tournées comme ça dans le Nord canadien, il y a beaucoup de défis à relever. Et en réalité, il y a beaucoup de préparatifs en amont. C'est ce dont il nous parlera. Et enfin, le dernier invité qui nous parlera aujourd'hui, Monsieur Dave Jennis de la nation Wolastoqiyik, qui est en fait Malécite, oui. Tout à fait. Donc, il est directeur artistique des productions Ondina, qui est une compagnie de théâtre autochtone francophone multidisciplinaire. Il est aussi comédien, metteur en scène, auteur de théâtre, scénariste. Donc, c'est depuis 2008.
Beaucoup de choses.
Ouais, beaucoup de travail, beaucoup de tournées. C'est le sujet aujourd'hui de notre causerie, de nos discussions, ces tournées en communauté, ces rencontres avec les gens et les organisations, la coordination, les préparatifs que ça prend pour se rendre en collectivité. Donc, je vais céder tout de suite la parole à M. Xavier Huard, qui va nous parler un petit peu de ses expériences dans les collectivités autochtones.
Merci beaucoup tout le monde, bonjour. Donc, je m'appelle Xavier Huard. Avec les productions Menwendagwan, ça fait plusieurs années qu'on fait des créations, du spectacle. C'est devenu avec le temps un collectif d'artistes, on peut dire, de différentes communautés, différents horizons. Certains artistes autochtones qui vivent à Montréal, travaillent à Montréal. Certains artistes autochtones aussi qui vivent dans les communautés, mais qui vont être amenés à collaborer de différentes façons aux productions. Et aussi des artistes autochtones qui sont dans tous les aspects de conception avec le théâtre. Donc, on est à conception sonore, conception d'éclairage. Il y a notamment beaucoup d'artistes qui sont de divers horizons qui travaillent pour Menwendagwan. On va pouvoir le voir dans les photos. Là, ici, vous voyez, c'est un bon exemple. Il y a Étienne Thibault dans la petite photo que vous voyez là. Là, on voit peut-être un peu mal avec l'éclairage, mais vous voyez en arrière, il y a une espèce de colonne de livres qui est un des éléments du décor scénographique. Et lui, c'est un super acteur Innu qui est aussi concepteur sonore, donc qui fait aussi des conceptions sonores de spectacles. Et souvent, quand il fait ses conceptions sonores de spectacles, il va intégrer des musiciens autochtones qui vont venir de d'autres communautés. Donc, par exemple, un musicien qui est, par exemple, je pense à Sally Keelan, qui est originaire de Saluit, qui avait vraiment sa pratique. Merci beaucoup. Yes. Donc, Sally Keelan, c'est un artiste qui avait vraiment sa pratique à lui, à Saluit. Il n'avait jamais vraiment fait de musique encore pour le théâtre et c'est Étienne qui a partagé ce rôle-là avec lui. Donc, à deux, ils ont fait la composition. Puis après ça, Étienne, lui, s'est chargé un peu plus de l'orchestration avec le reste de la mise en scène. Fait que c'est souvent le genre de combinaisons qui peuvent exister. On sait qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de jeunes artistes autochtones dans les communautés ou à Montréal qui vont faire plus d'un truc, qui vont être interprètes, mais aussi ils vont être auteurs, comme notamment Dave qui est ici, tu vas pouvoir en parler, mais c'est quand même un cas de figure qu'on voit souvent. Dans les communautés, nous, le réseau de tournées en communauté en ce moment au Québec, ce n'est pas un réseau dans lequel on a accès facilement, on rentre puis on sort, comme par exemple le réseau de diffusion qui est déjà existant avec les grands théâtres dans les grandes villes qui sont souvent sur le territoire de communautés. Fait que parfois, une stratégie, on peut dire, c'est d'aller dans ces théâtres-là, à Bécomo, à Sept-Îles, mais d'inviter les communautés à venir présenter des œuvres-là ou à venir voir des œuvres de d'autres artistes autochtones. Donc ça, c'est une stratégie qui est quand même beaucoup utilisée. Il y a aussi la tournée directement sur les communautés qu'on fait. Nous, on s'est beaucoup impliqué dans la formation et la fondation de troupes de théâtre dans les communautés. Ça, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce que quand on a commencé ça en fondant la compagnie Manantaguan, on est arrivé à une réalité que la nouvelle génération, les nouvelles pousses d'artistes, fallait s'en occuper, fallait les mobiliser, fallait donner des ateliers, fallait trouver des façons de collaborer parce que on voyait bien qu'il veut pas rapidement, il y avait un intérêt pour les jeunes artistes autochtones, puis rapidement il était mobilisé, puis il peut avoir un phénomène momentané de sursollicitation qui existe. Donc on s'est dit, il faut qu'on dynamise la prochaine génération. C'est pour ça qu'il y a eu notamment une troupe de théâtre à Abidjan, à Pessamit maintenant, sont maintenant en team, en équipe École nationale de théâtre avec le conseil de bande de Pessamit. Ils présentent en fin de semaine leur pièce de théâtre là-bas. Donc, ces troupes-là de théâtre, ma petite anecdote, c'est, je me souviens, moi, j'avais un ami qui était policier à Abidjan. Et le poste de police d'Abidjan, qui est une petite communauté qui est très reculée, donc ils ont vraiment leur réalité à eux. Le village le plus proche, qui est à 3 heures de route, il faut que tu passes par un chemin forestier. Fait qu'ils ont vraiment leur réalité à eux à Abidjan, et le policier, il était, j'imagine, un peu tanné de courir chat à la souris avec les ados dans la communauté qui, au final, faisait rien de bien grave, mais qui sentait bien qu'il avait besoin de quelque chose pour les mobiliser puis les faire travailler ensemble. Puis on est au téléphone, puis il me dit, écoute, je pensais à ça. Puis je me suis dit, la solution, ce serait peut-être une pièce de théâtre. Là, j'ai dit, si tu penses que la solution, c'est une pièce de théâtre, là, c'est vraiment parce que tu as tout essayé, mon ami, parce que c'est tout qu'un projet s'embarquer là-dedans. Puis il dit, oui, c'est ça que ça nous prend. Ça nous prend tout un projet pour embarquer là-dedans. Puis je vais prendre une petite gorgée d'eau. Merci beaucoup d'ailleurs. Puis, une chose que je dis souvent, autant quand je vais faire des programmes de formation, autant chez les allochtones que les autochtones, parce que c'est aussi une réalité qui existe dans les petits villages allochtones, le théâtre, la force que ça a sur le territoire, c'est que ça va mobiliser toutes les jeunes, peu importe leur sensibilité artistique. Si, par exemple, c'est un jeune qui est plus habile avec le dessin ou avec la couture, bien, la scénographie, on va avoir besoin de lui. Si c'est les mots, on va avoir besoin de lui. Si c'est la technologie, on a besoin d'éclairagistes. On a peut-être une conception vidéo en même temps. Fait que tous les jeunes qui ont une sensibilité, ils vont faire partie de ce collectif-là. Puis tu te rends compte que c'est sûr que l'interprétation, on voit des comédiens à la télévision, fait que c'est normal. On a peut-être plus, l'interprétation est souvent la porte d'entrée pour le théâtre ou la télévision, mais peut-être que finalement, tu te rends compte que, j'aime ça jouer, mais tabarouette, la, le costume, je suis capable de coudre avec ma grand-mère à me montrer comment. Je me rends compte que j'aime ça. Tout à coup, tu as un concepteur de costume qui naît dans un projet d'école secondaire, de l'école de théâtre. Donc, c'est toutes ces petites affaires-là. Puis même des fois, l'idée, c'est pas nécessairement que ça devienne des artistes professionnels, mais c'est juste de se mobiliser à l'intérieur d'un projet, comme un projet sportif. C'est pertinent. C'est sûr que moi, mettons, si je prends pour moi ma part, quand j'étais jeune, j'étais pas trop sport. Ben, j'en faisais, mais j'étais pas très bon, tu sais. J'étais tout le temps le dernier choisi, tout ça. Fait que j'étais content d'avoir la troupe de théâtre, tu sais. C'est vraiment là que j'ai pu m'exprimer puis être moi-même. Fait qu'il y en a beaucoup des jeunes comme ça, un peu partout, qui, eux, leur façon de s'exprimer, c'est peut-être pas le hockey, mais on voit le bénéfice que peut avoir le hockey dans ces communautés-là. Je pense qu'une troupe de théâtre peut avoir les mêmes bénéfices dans une communauté. Puis c'est ça qu'on a vu. Puis ce qui est beau, c'est que là, par exemple, la troupe de Pessamit sont à leur troisième année, mais ils ont comme une année de break à cause de la pandémie, on comprend pourquoi. Mais là, maintenant, la gang, elle existe par elle-même. Tu sais, les jeunes sont ensemble, ils ont la troupe, puis la troupe, elle va exister. Ça existe, c'est là. Il y a comme une pérennité qui existe par les jeunes.
L'idée, c'est de ne pas laisser tomber le projet ensuite. Là, l'idée, c'est que ça se poursuive, puis qu'ensuite de ça, ça puisse grandir et que ça accueille d'autres jeunes de la collectivité.
Oui, puis aussi, une chose qui est super importante, nous, dans l'approche de tout ça, c'est de toujours garder en tête l'autonomie artistique de la communauté. Donc ça, c'était juste pour expliquer un peu ce que ça veut dire, c'est juste dans ton idée à toi, le chemin artistique, la force artistique, elle existe déjà dans la communauté. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui arrive avec ton savoir puis avec tes connaissances puis que tu sais comment faire. Non. Tu vas collaborer bien humblement avec d'autres artistes qui sont sur la communauté. Vous allez mettre la main à la pâte quotidiennement, puis ça va donner une création. Mais la force de cette création-là va venir de la communauté. Ça va être les chants de là, ça va être les gens qui vont se mobiliser autour. Puis c'est ça qui va faire que ça va être une des expériences. Moi, ça a été mes plus grandes expériences de théâtre, là, de voir ces jeunes-là. Si on prend par exemple Obedjoane, qui ont fait les décors, la musique, tout par eux-mêmes, là, avec l'aide des parents autour, qui ont invité la communauté. On veut vous parler, on a un message à vous livrer. C'est nous autres qui écrit la pièce. La communauté est venue dans le gymnase de l'école, ils ont rassemblé tout le monde, puis les jeunes ont livré le message qu'ils avaient à dire. C'est puissant, là. Moi, j'ai jamais vécu j'ai joué dans le grand théâtre qui est ici, j'ai eu des super belles expériences, mais une expérience comme celle-là, c'est capoté, là. C'est dans mes plus grandes expériences de théâtre que j'ai vécu. Puis les plus jeunes voient les ados le faire. Donc déjà, il y a déjà juste de faire ça, eux, quand ce jeune-là va vouloir faire du théâtre, il l'a déjà vu. Ça fait déjà partie de son univers.
C'est difficile de partir.
Hein?
C'est difficile de quitter la communauté après.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on y retourne beaucoup.
C'est ça, le cœur en miettes, là, un peu écrapou en sortant.
Oui, c'est des belles expériences pour le théâtre, parce que le théâtre, c'est là qu'on réalise la force de l'art vivant quelque part. Puis quand ça s'inscrit dans une communauté qui est déjà très tissée serrée, ben, veut pas, ça transparaît beaucoup. Ouais. Je peux continuer par parler sur un autre sujet.
Mais voilà.
Oui. Mais c'était ça pour mon anecdote, peut-être pour Obedjoane, juste pour dire comment. Et puis peut-être pour finir avec ça, il y a un truc qui était très touchant, c'était de voir les policiers qui venaient pendant les répétitions en habit. Ils étaient au travail, mais ils prenaient le temps de venir. Puis ils s'assoyaient sur ces petites chaises dans la salle de classe, là, tu sais, ces gros colosses en habit de policiers, mais ils étaient tellement impliqués, puis ils croyaient tellement que les jeunes allaient faire quelque chose de beau avec ça.
Fait que c'était... Et quand vous arrivez, le seul matériau que vous apportez, c'est votre corps, votre voix, vos inspirations. Vous n'arrivez pas avec des dizaines de costumes, des choses comme ça.
Nous, ce qu'on préconise, c'est de faire des créations à partir de ce que les jeunes ont envie de dire. Oui. Donc, on part au niveau de l'écriture. Donc, Eux, ils ont parti. Dans le fond, le pari qu'on fait, c'est en partant de ce qu'ils ont envie de dire, peut-être que ce ne sera pas la dramaturgie la plus étoffée au monde, mais eux, ils vont avoir quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils veulent vraiment transmettre. Puis c'est ça qui va être le moteur de tout le reste du projet, un peu.
Merci. On va revenir à Xavier Huard dans quelques instants. J'ai parlé de matériaux à apporter à peine quelques secondes. C'était sans doute pour lancer le second invité qui va nous parler justement, qui vient de l'Orchestre symphonique de Montréal, Sébastien Almond, qui coordonne le déplacement de dizaines, parfois de centaines de musiciens avec différents instruments qui sont faits en différents matériaux. Et je vais lui céder la parole parce que c'est l'expert en la matière.
Oui, merci Caroline. Oui, c'est vrai que quand on parle de tournée à l'Orchestre symphonique de Montréal, il faut savoir que l'orchestre a été fondé en 1934, donc pratiquement 80 ans d'existence. Puis on a fait, je pense, 70 tournées internationales dans notre histoire. Puis international, ça veut dire vraiment dans le monde entier, donc l'Asie très souvent, l'Amérique du Sud, l'Europe, bien sûr, Amérique du Nord. Et puis quand on part, donc depuis une quinzaine d'années que je m'occupe des tournées, en général, on est un groupe de 120-130 personnes, c'est-à-dire l'orchestre au complet, plus toute l'équipe d'accompagnement et les instruments. Les instruments ne voyagent pas avec les musiciens dans l'avion, mais ils voyagent séparément dans un cargo, un vol cargo. Et donc là, on parle de 6000 kilos, 100 boîtes, donc c'est quand même une grosse logistique à organiser. En plus, c'est un cargo qui est très spécial parce que c'est un cargo qui est d'une grande valeur, j'allais dire, financière et sentimentale aussi. Il y a des musiciens qui nous confient leur instrument avec lequel ils jouent depuis des années et des années. C'est un cargo fragile. Alors, il faut faire attention à la température, à l'hygrométrie. Donc, c'est pas de la tarte de partir en tournée à 120 personnes, mais je dirais que c'est presque plus facile de partir au Japon avec l'orchestre au grand complet que de partir au Nunavik avec 15 musiciens. J'ai travaillé sur le projet 2 ans avant. Je vais faire d'abord une petite mise en contexte de quel est le projet, qu'est-ce que c'était notre tournée. En 2016, on a décidé de partir au Nunavik avec un ensemble de musiciens un peu plus étoffé que la toute première tournée qu'on avait fait en 2008. En 2008, on est parti donc au Nunavik, 3 communautés, mais c'était un ensemble de 7 musiciens. 7 musiciens, Monsieur Nagano. Et puis, on avait joué à l'époque des œuvres de Mozart et l'histoire du soldat de Stravinsky, qui est un texte qui est dit avec un narrateur. Évidemment, on avait demandé à traduire le texte pour que les gens sur place comprennent. Donc, je pense que c'est la seule œuvre de Stravinsky qui a été traduite en Inuktitut, parce qu'il fallait que les gens comprennent l'histoire qu'on allait raconter. Mais c'était quand même du répertoire occidental. On s'était dit, M. Nagano s'était dit, c'était bien, mais je veux retourner au Nunavik, mais je veux y aller avec un spectacle qu'on fait avec les communautés, pour les communautés. En 2016, on a décidé de repartir, et je me souviens très bien de la toute première réunion de programmation qu'on a eue avec lui à ce sujet. Il disait, OK, je voudrais qu'on soit plus nombreux que la dernière fois, donc on va partir avec un demi-orchestre, ce qu'on appelle nous un demi-orchestre, à peu près 45 musiciens, et puis on va faire un opéra. Puis là, moi qui gère essentiellement la logistique de tournée, je commence à lever les yeux au ciel. Je me dis, où est-ce qu'il va nous amener avec son opéra au Nunavik? Puis il commençait à parler avec la directrice de la programmation, Marianne Perron, puis sur le contenu, sur qu'est-ce qu'on pourrait amener comme opéra. Puis je suis quand même assez rapidement intervenu en disant, maestro, oui, c'est une très bonne idée. Mais qui dit opéra dit metteur en scène, dit costume, accessoires, décor. Et puis je lui ai dit au niveau des instruments, pas de harpe, pas de piano, pas de percussion, pas de contrebasse. Puis là, il me regarde, il était un peu interloqué parce que moi, je n'interviens jamais sur ces questions purement artistiques. Il me regarde, puis je lui dis oui, parce qu'il n'y a pas de route là-bas, on va tout faire en avion, puis on ne va pas avoir des avions suffisamment grands pour amener un décor d'opéra, puis le cargo habituel de l'orchestre. Alors, dans la discussion, il a compris. Dans la discussion, on a décidé finalement d'opter pour une œuvre en deux formes, qui est un opéra de chambre, OK, qui va être composé pour 45 musiciens, mais on va demander, c'était une commande, hein, donc il fallait trouver le compositeur, on va demander au compositeur d'adapter sa version orchestre à un groupe de 15, c'est-à-dire, dès la création de l'œuvre, avoir en tête qu'il doit écrire pour 15 et pour 45. Comme ça, on peut partir à 15 avec un petit groupe au Nunavik. Et puis ensuite, l'orchestre de 45 peut partir sur la côte nord, puisque notre tournée était en 2 volets, la moitié au Nunavik et l'autre moitié sur la côte nord, qui est accessible par route, évidemment. Donc, on met les instruments dans le camion, on met les musiciens dans un plus gros avion.
Et c'était la même production, celle sur la côte nord.
La même production, et ça s'est fait dans la même semaine. Donc, on est parti au Nunavik 6 jours. On est revenu à Montréal et le avec 15 musiciens. Et le lendemain, on repart dans la côte nord avec l'orchestre de 45. Alors ça, c'était la prémisse de départ. Le projet artistique, l'opéra, en fait, Maestro a demandé à un compositeur qui s'appelle Matthew Ricketts, un compositeur canadien, d'écrire cet opéra de chambre. Et puis, il a dit, on devrait travailler avec quelqu'un des communautés. Donc, quelqu'un de l'équipe lui a suggéré tout de suite Thompson Highway, qui est un auteur cri du Manitoba, et qui nous semblait être vraiment la personne parfaite pour écrire le livret de cet opéra. On lui a donné carte blanche, on lui a dit, tu nous écris ton histoire, et ensuite on va te faire rencontrer le compositeur pour écrire la musique. Thompson est parti, donc il a dit, je voudrais me baser sur les contes et légendes de ces communautés. Donc il a écrit un opéra de chambre qui s'appelait Chacapesh, le périple du fripon. Dans la composition, on avait demandé à ce que les communautés participent. Donc, ce n'est pas évident parce qu'évidemment, on part avec le directeur musical de l'OSM, on part avec des musiciens de Montréal, mais on avait quand même demandé à Thompson de prévoir dans son livret un moment où un ou des artistes des communautés pourraient participer à la production. Alors, il a dit OK. Puis, dans son livret, à un moment, le personnage Chacapesh arrive sur un bateau et les marins du bateau lui souhaitent la bienvenue en lui faisant un petit spectacle. Donc, c'était cette partie-là qu'on avait confiée à des artistes locaux en disant carte blanche, vous avez quelques minutes pour faire dans l'opéra un petit spectacle de bienvenue à Chacapesh. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dans chaque communauté, il y avait un artiste différent. Donc, on a eu à un moment une jeune fille qui était violoncelliste, mais on a eu aussi des chanteuses de gorge, etc. etc. C'était vraiment carte blanche aux artistes.
Chacapesh, c'est un héros national. C'est un héros national cri. On le retrouve aussi dans certaines communautés, un peu aux États-Unis, dans le nord du Canada, mais il n'est pas nécessairement, il ne fait pas partie des récits inuits comme tel.
Non, alors
comment
ça
se sont-ils appropriés?
C'était le défi, en effet, parce que Thompson est cri, et puis on partait dans les communautés cri, inou et aussi inuit. Alors, donc Thompson a écrit en cri, évidemment. Donc les deux solistes, les deux chanteurs chantaient en cri. Puis on s'est dit, pour que les personnes qui, quelle que soit la communauté, comprennent l'action, comprennent ce qui se passe, on va demander à un narrateur local d'expliquer l'action. Donc le texte a été traduit en cinq langues, donc français, anglais, Inuktitut et écrit, c'était l'écriture originale. Donc, dans chaque communauté qu'on visitait, il y avait un narrateur qui parlait la langue locale. Donc, pour le Nunavik, c'était Akinisis Iwarapik, qui est une chanteuse de gorge avec laquelle on travaille régulièrement. Pour les cris, c'était Ernest Webb. Et pour les Inus, c'était Florent Volant, qui nous a fait vraiment l'amitié de participer à toute cette belle aventure. La partie logique, je vais peut-être afficher la carte.
Oui, vous avez quelques photos.
Oui, c'est ça, voilà.
Oui,
donc, vous voyez sur l'écran, on voit les trois points en rouge en haut, c'est la partie A15, donc la partie au Nunavik. Donc, dans l'ordre, on a commencé à Kujuak, ensuite on s'est rendu à Salwit, et ensuite on a joué à Kujuarapik. Le lendemain du concert à Kujuarapik, on est revenu à Montréal, et le surlendemain, on est reparti avec dans l'ordre Ujebugumu, donc proche de Chibougamau. Ensuite, nous sommes allés à Mashtoyach, donc proche de Robertval, et donc chez toi, je comprends, Caroline,
oui.
C'est ça. Et on a terminé à Ouachak, Makmani, Outenam, proche de Assateague.
Oui.
Évidemment, une tournée comme ça, c'est une énorme préparation logistique, et je pense que je peux dire que c'était la tournée la plus difficile que j'ai eu à organiser, parce que je ne connaissais pas le territoire, je ne connaissais pas les gens sur place. J'étais jamais allé à Nunavik, en fait.
Mais la tournée de 2008, vous en aviez fait.
Je l'avais préparée, mais je n'étais pas allé sur place.
Okay.
En fait, j'avais mis les musiciens dans l'avion, mais je ne m'étais pas rendu sur place.
Maestro Nagano était-il allé au Nunavik?
Il était allé avec sept musiciens. Il y avait d'autres personnes de l'OSM, mais personnellement, je ne m'y étais pas rendu.
Okay.
Alors, on s'est rapproché de Avatak, qui est l'Institut culturel inuit, qui est basé à Montréal, qui nous avait d'ailleurs emmené en 2008 au Nunavik. Et on leur a demandé de nous aider sur la préparation de la tournée, la logistique, leur connaissance du terrain, des réseaux, etc. J'ai donc fait une pré-tournée 3 mois avant avec une personne d'Avatak sur place. Je me suis rendu dans les trois communautés et Dieu merci qu'on ait décidé de faire ça parce que j'ai vu les lieux, j'ai rencontré les personnes, j'ai évalué les questions de transport, de météo qu'il faut aussi intégrer quand on fait une tournée dans cette région. Et ensuite, ça m'a quand même permis de revenir à Montréal en disant, bon, là, Ça, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais qui est important. Par exemple, la bouffe, j'y reviendrai tout à l'heure. La nourriture est une question très importante quand on va au Nunavik avec 35 personnes. On était 35 à partir, il y avait 15 musiciens, mais il y avait aussi, donc évidemment, M. Nagano, deux solistes, le narrateur, le metteur en scène. Il y avait une équipe documentaire. Peut-être que vous l'avez vu, le documentaire de Roger Frappier et Justin Kingsley. Ils nous ont accompagnés pendant la tournée, donc ils étaient quatre. Un documentaire, un magnifique documentaire de 2 heures qui s'appelle Chacapèche.
On peut peut-être aventure, le mettre en
qui pourrait peut-être être diffusé dans le cadre du festival. Et puis, il y avait donc une journaliste embarquée. En tout cas, on était 35 au total. Ce qui, au départ, on disait, OK, on va partir avec 15 musiciens. Et j'imaginais pas qu'on serait plus que le double dans l'avion. Alors, l'avion, le transport, on s'est dit qu'évidemment, il fallait qu'on prévoie un itinéraire qui nous donne la possibilité d'être flexible sur les dates, parce que si à un moment il y a une mauvaise météo et que l'avion ne décolle pas, ben le spectacle est annulé. Alors on avait dit, OK, plutôt que de faire comme d'habitude une journée un concert, on va faire 2 journées un concert. Ça nous laisse une journée tampon pour se déplacer. Si le déplacement se passe bien, ben ça laissera un peu le temps de découvrir la communauté. Puis si l'avion ne décolle pas à cause de la météo, ben le lendemain, on peut quand même partir et honorer notre contrat avec la
prestation. Et vous aviez également un avion cargo pour les instruments et non, un avion pour les...
Alors, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, les instruments... Donc, l'avion, c'était un avion d'une compagnie qui s'appelle Nolinor, un avion de, je pense, une 60aine de places, dans lequel donc on a mis et les instruments et le personnel. Et si vous allez voir les images, c'est quand on voit ces images que quand je vois ces images que je me dis j'ai tellement bien fait de dire à Kent au début attention, pas de contrebasse par exemple, parce que la contrebasse ne rentrerait pas dans cet avion. Vous voyez, je pense qu'il y a une petite vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner. Oui, c'est ça. Là, je sais pas comment je peux la lancer. Est-ce que il y a moyen de lancer la vidéo? Non. Non, je pense que ça, c'est une photo, en fait. Si vous pouvez la lancer. Non, je pense que ça, c'est une... Non, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Dans l'avion, donc, on avait demandé à la compagnie d'enlever les premiers 6 rangs, je pense, de sièges pour mettre le cargo. L'intégralité du cargo, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a une dizaine de boîtes. Il y a 2 garde-robes pour les costumes de scène des musiciens et des solistes. On avait demandé donc à Nolinor d'enlever les premiers rangs pour pouvoir installer notre matériel. Et puis ensuite, les derniers rangs étaient pour les 35 passagers. Donc ça, heureusement, l'intérêt évidemment du vol Nolisé, c'est qu'on part quand on veut, on charge l'avion comme on veut, quand on veut. Et c'est beaucoup plus simple quand on a une tournée avec beaucoup d'enjeux de temps, mais aussi avec des aléas météo qui peuvent nous arriver dessus. L'autre enjeu qu'il a fallu gérer, je disais tout à l'heure, c'était la bouffe. Ça a l'air de rien.
Ça, c'est un gâteau.
Mais ça, c'est un beau gâteau. on avait demandé à Avatag de nous aider à organiser la bouffe sur place, parce que quand on part en tournée, je n'ai jamais géré la bouffe en tournée, en fait. Quand on part en tournée, on donne un per diem aux musiciens, et puis les musiciens sont libres d'aller au restaurant, de choisir le resto, de manger quand ils veulent, où ils veulent. C'est quelque chose que je n'ai pas à gérer, heureusement, parce que 120 personnes, ça serait beaucoup de travail. Mais là, évidemment, il n'est pas question de dire à nos musiciens, vous choisissez votre resto dans les communautés, parce qu'il n'y en a pas. Donc, la question, c'était de dire comment on gère cette question-là. Puis, on s'est dit, OK, on va avoir dans chaque communauté une cuisinière qui va faire la bouffe, on va acheter la bouffe et puis on va lui dire, voilà, on est 35, puis on mange à telle heure.
Comme un service de traiteur.
C'était exactement ça qui était prévu. Et finalement, la cuisinière qui avait dit OK, finalement, nous a dit quelques jours avant de partir qu'elle n'était disponible que pour la première ville, qui était Koudjouak, mais pas pour les autres. Donc là, en dernière minute, ça fait partie des enseignements de cette tournée, c'est s'adapter, savoir gérer l'imprévu. Mais être ouvert au changement, parce que c'est comme ça de toute façon. Il faut savoir que quand on part au Japon, on organise tout à la minute près, mais vraiment à la minute. Au Nunavik, c'est pas possible. Alors, je suis allé au restaurant juste à côté de la Place des Arts qu'on connaissait, puis je leur ai dit, écoutez, il me faut une cuisinière pour une semaine, on part dans 8 jours, quelqu'un qui soit capable de faire la nourriture pour 35 personnes. On a trouvé quelqu'un qui nous a accompagnés. Et qui a été en fait notre chef cuistot pendant toute la tournée. Donc on n'est pas parti de Montréal avec de la bouffe, parce qu'évidemment c'était quand même des produits frais, mais vous voyez, on avait donc au fond c'est Anne-Laure, la cuisinière, et puis au premier plan c'est Andrew Wan qui est le violon solo de l'orchestre, Et ensuite, c'est Stéphane Lévesque, le basson solo. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. Tout le monde s'est mis à un moment. Quand il fallait peler les patates, ben, les gens étaient là pour peler les patates. Ce qui était assez, assez savoureux, je dois dire, de voir les musiciens de l'OSM faire ça, parce que ce n'est pas évidemment habituel. Mais en même temps, c'était la façon de faire le système B, la façon de faire...
Ça tisse des liens aussi qui sont un peu différents.
Absolument. C'était un groupe de 15 musiciens, donc 35 au total. Ça a vraiment, vraiment tissé des liens dans l'orchestre. Les gens d'Avatac nous avaient dit « Attention, vous arrivez à 35, ok, vous allez aller à la coopérative de la communauté pour faire les courses et faire la bouffe, mais vous allez vider les stocks. » Là,
parce mais que... les coopératives, c'est aussi là où il y a le service hôtelier. Là, c'est donc, ça, c'est des chambres avec salle de bain, puis exactement, des cuisines communes dans les communautés. Donc, ce sont des hôtels coopératifs.
Alors, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, de dire on arrive, on débarque, et puis on vide les rayons de la coop. Donc, la première ville, heureusement, c'était Kudjouak, qui est la plus grande ville du Nunavik. Donc, on est parti à Kudjouak, où il y avait beaucoup vraiment de stock. Donc, on a pu acheter ce qu'il fallait.
Il y a deux épiceries, je pense.
C'est ça, oui. Mais quand même suffisamment pour tout le monde. Et on a fait les courses à Kudjouak pour emmener dans l'avion. Et donc, on a dû... Vous voyez cette photo. À chaque fois que je présente la tournée, je présente cette photo parce que vous ne verrez jamais de photo de l'OSM en tournée avec de la bouffe dans des flight cases, évidemment. C'était une première pour moi. C'était assez unique de voir qu'on partait en avion avec la bouffe, parce que c'est quelque chose qu'on n'organise pas. Donc ça, c'était une question logistique qui allait d'être rien du tout. Mais en fait, si elle n'avait pas été anticipée, de se dire on arrive, puis finalement, on ne peut pas manger ou il n'y a pas grand-chose à manger, ça aurait changé complètement la physionomie de la tournée. La tournée, ça a été aussi l'occasion de faire beaucoup de rencontres. Quand on est parti en tournée, l'idée, c'était de profiter de cette fameuse journée tampon qu'on avait pour faire des activités de médiation, de rencontrer la communauté. Donc, quand j'étais parti en juin, j'étais aussi allé rencontrer les écoles en leur disant qui on était, puis en leur disant on peut organiser des ateliers. Mais rien de bien compliqué là, mais ne serait-ce que présenter un instrument, de dire c'est quoi un violon, comment ça fonctionne. On a également donc, on a eu beaucoup d'intérêt de la part des écoles. Donc, à chacune des communautés, on a pu faire des présentations d'instruments. Vous voyez, on a Anjouan, le violon solo, qui à un moment, à la fin d'une répétition, présentait à un jeune un violon. Donc, comment fonctionne le principe des cordes frottées. On a également Marie-André Chevrette qui a présenté. Là, c'était un vrai bain de foule. Elle a eu un succès fou parce que c'était à la fin d'un concert aussi. Puis, elle est dans le public. Puis
il y a d'excellents violoncellistes au Nunavik, au Nunavut, chez les
Cris. Oui, et il y en a une d'ailleurs qui a été la musicienne qui a participé à la pièce avec nous. C'était l'objectif de cette tournée, c'était de rencontrer les communautés. C'était pas juste présenter un opéra, mais c'était aussi de le faire avec eux et d'être prêt, d'arriver prêt, de savoir comment fonctionne une communauté, quelle est la dynamique, parce que ce que je disais tout à l'heure, nous, quand on part, tout est réglé au cordeau à la minute. Il faut oublier ça quand on part au Nunavik. Il y a les aléas météo, ok. Mais il y a aussi le fait que le temps n'a pas la même valeur là-haut. Et puis, je me souviens des petits détails, mais quand j'appelais à la mairie de Kudjouak, par exemple, 4 jours avant de partir, en disant, on ne sait pas quel est notre lieu de concert, nos lieux de spectacle, ce n'était pas encore déterminé. Est-ce que je pourrais parler à la personne? Mais il n'est pas là, il est à la chasse, mais il reviendra peut-être dans 2-3 jours. Ok, moi, ça me rendait hyper insécure de partir la veille ou l'avant-veille sans savoir où on allait jouer, sans pouvoir dire aux musiciens, voilà, il y aura une scène, il y aura de la lumière. Mais en même temps, je me suis dit à un moment, lâche, parce que ça ne sert à rien de t'énerver, de t'impatienter, de stresser. Ça va avoir lieu, le spectacle, c'est certain. Il faudra juste s'adapter. Peut-être que la répétition sera plus courte ou pas au même moment, au moment prévu, mais ça aura lieu. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'était la magie du spectacle. Donc, il y a eu énormément de très, très beaux moments dans cette tournée. Puis, une petite anecdote. Tout à l'heure, tu me demandais des anecdotes. À un moment, à Salouit, à la fin du spectacle, il y a quelqu'un qui monte sur scène. Après les applaudissements, ça, les gens commencent à se lever pour partir. Quelqu'un monte sur scène, puis parle à la foule en Inuktitut. Puis, cette fois-ci, ce n'était pas traduit. D'habitude, au début, quand il présentait, évidemment, il parlait en Inuktitut, puis il y avait quelqu'un qui traduisait. Puis là, ce n'était pas traduit. Et puis, on sentait qu'il y avait un brouhaha dans la salle, que les gens se parlaient, qu'il y avait un petit peu de nervosité. Donc, je vais voir la personne, puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit? Puis elle dit, on vient d'annoncer qu'il y a 3 ours polaires qui ont été repérés dans la communauté, donc de ne pas sortir ou de faire très attention en sortant. Wow. Donc, moi, je dis ça à mes musiciens, je dis ça à Kent, je dis ça à toute l'équipe. Puis, et là, évidemment, tout le monde était entre l'excitation de voir des ours et puis la peur quand même, parce qu'on nous disait, attention, c'est la salle qui était le gymnase et la coop, c'était 50 mètres, là, c'était vraiment, il y avait 30 secondes de marche.
Ouais, mais
les gens dans la salle nous disaient, attention, faites attention, restez en groupe, ne traînez pas en chemin. Donc, on était un petit peu excités. Puis, quand on est arrivé de l'autre côté à l'hôtel, là, tout le monde s'est mis à la fenêtre, puis tout le monde regardait, mais on ne les a pas vus.
Non.
Okay. Voilà pour l'anecdote de tournée.
Excellent. Mais écoutez, c'est toute une entreprise de partir comme ça au Nunavik. Bon, pour l'avoir fait à quelques reprises, alors que j'étais à Radio-Canada avec les caméras, les caméramènes, les appareils électroniques aussi. On allait tourner au Nunavut. Oui, on a tourné au Nunavut. Ben, la caméra à moins 40 au froid, ça ne fonctionne pas.
Oui, c'est ça. Ben,
même
ça.
Avec les. On avait des espèces de moumoutes, là, des espèces de ouvertures de caméra.
Ouais.
Ça ne fonctionnait pas. Il fallait attendre, la réchauffer, recommencer. Exact. Puis les piles vont très, très rapidement. Ouais,
ouais. On avait choisi cette période aussi, c'était septembre, justement pour la météo. On ne voulait pas être pris avec des avions qui ne décollent pas à cause de la météo ou à cause des températures.
Ouais, c'est
Mais c'est certain qu'à aucun moment les instruments n'étaient laissés dans un hangar non chauffé.
Ouais.
En fait, dans le cargo, vous avez vu, les 10 boîtes, c'était pas. Chaque musicien avait son instrument. Les 10 boîtes, c'était. Il y avait la percussion, il y avait les vêtements, il y avait des accessoires et surtout les décors de l'opéra. Donc, il n'y avait pas d'instruments à proprement parler dans les boîtes. Les instruments étaient portés par les musiciens, en fait.
OK. Oui. Donc, je vais. On va terminer avec cette présentation sur, sur le Nunavik qui était vraiment complète. On va y revenir un petit peu plus tard avec sans doute des questions que Xavier et Dave ont pour ce genre de projet. Dave, vous-même, vous avez été dans les collectivités, travaillé avec les collectivités. Vous avez aussi, vous êtes avec Ondinoc, vous avez été avec Ondinoc, a fait du travail de collaboration. Comment est-ce que se déroulent les collaborations? Comment vous procédez pour faire des collaborations et les déplacements dans les collectivités?
Hé là là! Beaucoup de choses à dire. En fait, on dit là qu'il a déjà fait beaucoup de tournées dans les années 90. Ensuite de ça, il est retourné en tournée dans les années 2010-2011. Moi, je suis rentré en poste en 2017. Et ça faisait vraiment un bout qu'on dit qu'il n'avait pas été en tournée pour plein de raisons que Xavier va comprendre. Le manque d'effectifs, le manque d'endroits aussi. Hein? On sait que dans les communautés, les endroits pour jouer avec un gros décor, c'est toujours problématique. Et on dit qu'il y avait toujours des décors assez, assez imposants à une certaine époque. Donc, la tournée, c'était toujours un peu complexe. Et puis, quand je suis arrivé en poste, je me suis dit, bon, mais il faut qu'on reparte en tournée. Malheureusement, on n'a pas pu tourner dans les communautés, mais on a fait un peu comme Xavier a dit tout à l'heure, c'est d'aller jouer tout près. On a fait une tournée en Abitibi et c'est les gens des communautés qui sont venus nous voir à Rouyn-Noranda, Kitsissakik, Lac-Simon, donc voilà. Puis à partir de 2017, quand j'ai fait cette tournée-là avec le spectacle Jeunesse, Mokatek et l'Étoile disparue, j'ai eu un attachement avec les gens de là-bas. Là.
Vous répétez ça?
Oui, mais oui, Mokatek et l'Étoile disparue, c'est le premier spectacle jeunesse qu'on a fait chez Ondinoc, que j'ai créé pour les tout-petits, 2 ans et demi à 5. Et c'était aussi mon premier contact avec vraiment avec les Anishinaabe. C'était un peuple qui me gardait vraiment dans le questionnement depuis longtemps. Et quand on est allé là-bas, j'ai rencontré les gens et là, il m'est venu une idée. J'ai dit, pourquoi pas essayer de... Si on ne peut pas tourner en spectacle, il faut du moins essayer d'aller à la rencontre de ces gens-là pour travailler avec eux. Et il est venu l'idée de monter un espèce de camp avec des jeunes pour travailler l'écriture. Mais au départ, c'était vraiment, on va faire un truc de théâtre, on va leur montrer à écrire, papa. Puis là, vite, on s'est rendu compte que effectivement, le rythme de vie est différent, la façon de faire est différente. On avait décidé de s'associer avec le Lac Simon, l'école secondaire là-bas. Ça allait quand même bien, mais ce n'était pas facile parce que de ne pas y être tout le temps, hein? On se sent toujours un peu, imposteur d'y aller, de dire, ah, OK, on va faire ça, 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 puis reprendre nos petites choses, puis revenir à Montréal, puis dire, ah, bien, c'est nous autres qui vient vous montrer comment faire. Puis j'avais un peu de misère avec ça. Et à un moment donné, j'ai fait, il faut qu'on soit là plus souvent. Et l'idée d'y être plus souvent puis de monter quelque chose avec les jeunes du Lac Simon était présent et est arrivée la fameuse COVID qui est venue tout scraper ce qu'on avait fait.
Pour beaucoup.
Surtout,
on a parlé d'art vivant, là, donc théâtre, performance, tout ça, ça prend des gens.
Oui, puis ce que je veux dire quand on a scrappé tout ça, c'est que on commençait à avoir des liens fort intéressants avec les jeunes qui commençaient à s'ouvrir, à s'abandonner dans les écritures, dans les discussions. Et puis, la COVID est arrivée, donc on est obligé de recommencer à zéro. Et le projet est resté sur la tablette pendant 2 ans. Alors, tout était à recommencer. Et là, c'est là qu'on s'est dit, cette année, on a fait, il faut qu'on le fasse. On n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Et en juillet dernier, on est allé au Témiscamingue et on a fait venir 6 jeunes, Anishinaabe et une Cree, avec qui on a travaillé. Mais c'était aussi c'était un camp artistique, mais c'était aussi un camp de « je redécouvre ma culture Anishinaabe et aussi la langue Anishinaabe ». Et moi, je m'attendais à avoir des jeunes de 16, 17, 18 ans. Je m'étais préparé mentalement pour faire quelques ateliers. On avait Roger Wild avec qui...
J'ai pas 16 ans.
Non, mais Roger, c'est notre aîné préféré. On l'aime tellement. Il était tellement aussi prêt à collaborer avec nous puis à donner... des enseignements aux jeunes. Puis finalement, c'était des jeunes de 12, 13 ans qui ont écrit pour dire qu'ils voulaient connaître qui ils étaient vraiment puis qu'ils étaient curieux d'en apprendre sur le théâtre. Alors, moi, ça m'a déstabilisé parce que 12, 13 ans, je n'ai jamais fait vraiment d'atelier pour ces jeunes-là. Et je disais tout le temps au bureau, juste avant, il faut laisser place à l'improvisation, il ne faut pas qu'on se prépare trop. Et ça a été un 5 jours vraiment intensif, magnifique. Dans le Témiscamingue, on avait loué une pourvoirie qui était juste avec nous, qu'on pouvait être là, tout le monde ensemble. On s'est promené dans le territoire, on a marché, on a fait plein de choses. Je leur ai donné des moments d'écriture. Et je me suis rendu compte que c'était trop complexe de monter une production théâtrale, qu'on n'allait pas y arriver en si peu de temps. Donc, j'ai eu l'idée avec l'équipe de prendre la voix de ces jeunes-là puis, pendant toute la semaine puis d'en faire un balado. Donc, on va créer un balado. Et je trouvais que l'idée du balado était forte parce que la communauté, la radio communautaire, c'est important. Mm-hmm. Puis je me suis dit, s'il y a un message à passer, il va passer justement par l'audio, il va passer par la parole qu'on va avoir donnée à ces jeunes-là toute la semaine, puis aussi aux intervenants qui vont avoir été là. Mm-hmm. Donc, c'est pas vraiment... du théâtre de tournée, mais c'est un projet pilote cette année et moi, j'espère qu'on va pouvoir refaire ça. Mm-hmm. Je pense que c'est un mandat qu'Ondinoc a toujours eu d'aller dans les communautés, même en 90, quand il y a eu le théâtre de guérison avec Yves et Catherine, les anciens directeurs, c'était justement d'aller à la rencontre des gens et non toujours leur demander de venir vers nous, puis je pense que cet été, on a fait quelque chose de vraiment fort, puissant. Moi, ça m'a vraiment nourri humainement, spirituellement. J'ai appris énormément de choses. Puis ça a été difficile de partir, de laisser ces jeunes-là. Il faut dire que c'était des jeunes vraiment très matures pour leur âge. Puis ce qui m'a vraiment touché, c'était... j'ai des émotions. C'était des jeunes qui étaient dans des familles d'accueil en plus. Donc, le goût de savoir qui nous sommes, puis qui étaient nos ancêtres, ça m'a vraiment parlé. Puis là, j'ai fait, il faut qu'on le refasse. Donc, j'espère énormément que l'année prochaine, on va pouvoir replonger dans ce genre d'activité-là, qui est aussi une façon, puis je pense que Xavier va pouvoir en témoigner, de trouver une nouvelle génération d'artistes qui vont venir pouvoir nous aider comme compagnie. Parce que, veut pas, on va frapper un mur à un moment donné. On vieillit, les acteurs, hein? Marco est plus jeune, moi je vieillis, Charles aussi. Donc, ça nous prend une nouvelle génération d'artistes qui vont venir prendre parole, qui vont venir sur scène, puis pas juste des gens qui sont devant, mais aussi des gens qui vont être à la scénographie, comme tu as mentionné, les costumes. Donc, c'est tout ça. C'est aussi de voir, hey, on est-tu capable de donner ce désir-là à ces jeunes-là d'embarquer dans l'aventure théâtrale, parce qu'on sait que le théâtre, c'est exigeant, c'est demandant sur une longue période, c'est parfois moins attrayant que le Kodak, hein, la télé, c'est vite, la caméra. Puis à la télé, on est bon pour trouver des talents autochtones rapidement, mais en théâtre, les faire venir avec nous, c'est plus difficile parce que c'est l'art de s'exprimer devant des gens. Il y a cette timidité-là qui est encore très, très présente. Puis c'est aussi un abandon qui est parfois difficile à avoir en si peu de temps. Donc, l'expérience de tournée, c'est un peu ça pour Rondinoc. Pour le moment, il n'y a pas de visite en communauté avec des productions qui sont projetées dans le futur, mais ce côté-là de partage, de manière de faire notre théâtre à la compagnie, avec des camps comme on a eu cet été, ça, c'est pour moi, c'est nourrissant d'un côté et de l'autre. Ouais.
Merci, Dave. Avant de passer à une discussion, un échange entre les différents intervenants, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier en fait le Festival Présence autochtone d'accueillir cette causerie. Il y en aura une seconde au courant de l'après-midi. Mais aussi remercier les nations Ganyengehaga qui nous accueillent dans ce territoire pour ce grand festival qui a lieu ici à Jojage, Mounian. Donc, je voulais reconnaître ces nations-là qui n'ont jamais cédé leur territoire. Je ne l'ai pas fait tout à fait en ouverture. Donc, je vous prie de m'excuser. J'y pensais quelques secondes après. J'imagine que c'est la caméra qui m'a rendue soudainement nerveuse. Comme parlait Dave, parfois, se lancer devant les gens, ça peut être inquiétant. Mais je trouvais ça important. Puis Dave a parlé de quelque chose, c'était Dave Janis est bien sûr de la nation Malécite ou le Stokut, mais quand même rentrer dans une autre communauté, dans une collectivité autochtone qui n'est pas la nôtre, c'est quand même une rencontre qui nous amène à relever des défis, même quand on est autochtone. Hein?
Oui.
Toi, t'as réussi, tu avais comme un défi, un apprentissage culturel à faire quand même. Hein?
Bien, ce qui est fun avec les Anishinaabe, c'est que j'avais déjà travaillé avec Roger. Donc, j'ai eu... l'aîné avec Roger Wild. Donc, j'avais déjà un peu de contact avec la langue. Roger a travaillé avec nous sur notre spectacle Mitax Squadewamgol, la cendre de ses eaux, le dernier spectacle qu'on a produit. Fait que j'étais pas trop dépaysé, mais ce qui m'a vraiment appris un peu plus sur c'était vraiment les moments très, très simples autour du feu. J'ai même construit mon tambour avec Roger, qui était là, qui m'a montré comment faire. Et c'est un cadeau sans soi. Puis il l'a fait avec les jeunes aussi. Ben ouais. Les jeunes, vraiment, étaient sur une autre planète, qui capotaient là, de pouvoir faire ça, de pouvoir Ils se rappelaient beaucoup. Ah oui, je me rappelle de ça, mes grands-parents, ils me disaient ça, ils m'ont fait ça. C'était ça qui était super intéressant. Mais ça a pris. On avait juste 5 jours, mais la première journée, ça a été intense parce qu'ils ne se connaissaient pas.
OK, oui.
Et moi non plus, je ne les connaissais pas. Puis il fallait qu'on trouve une façon de rentrer en contact puis d'être rapide, quand même rapide dans l'ouverture à l'autre.
Ça fonctionne avec des jeux. Je sais que chez les Inuits, oui, au Nunavik, oui, oui, au Nunavut, les jeux, ça fonctionne tellement bien. Il y a tellement de jeux au Nunavik que les gens, les aînés aussi, ouais, vont participer à des jeux costumés, se décostumer, les verres d'eau, écouter dans des gymnases. J'ai vu des choses. Je me suis habillée.
Oh oui, on est allé un peu dans le jeu. On a fait des jeux avec eux. Ouais. On avait des choses qui étaient un peu plus sérieuses. Mais il y avait des moments où on s'amusait. Puis on avait trouvé une façon de faire cette approche-là. Puis de pouvoir leur laisser la chance de se présenter en leur donnant un livre. Puis ce livre-là, c'était leur livre qui allait se servir pendant la semaine pour écrire. Puis on avait plein de revues. Puis on disait, coupez des images qui vous parlent puis qui vont vous nous montrer qui vous êtes vraiment. Puis vous allez le présenter en avant devant tout le monde. Bon, un genre d'espèce de collage. Ça a super bien fonctionné. C'était bien intéressant.
Puis là, bon, j'ai parlé de la rencontre pour une personne d'une communauté autochtone ou d'une nation autochtone qui va dans une autre nation. Comment est-ce que c'est pour les gens qui ne sont pas autochtones? Xavier, quand même, vous avez beaucoup d'expérience depuis longtemps. Vous travaillez avec Marco, Colin. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un acteur de la communauté de Machteuillats au lac Saint-Jean. Xavier Huard, comment est-ce que cette rencontre-là avec les Autochtones se passe? Est-ce que ça a changé au cours du temps parce que les gens commencent à vous connaître maintenant?
Oui, bien, c'est une super bonne question. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai eu un contact privilégié dans les communautés, dans ma vie personnelle, très jeune. Fait que déjà, quand j'ai été gradué de l'École nationale puis qu'on a cofondé avec Marco et Charles Bender, Production Manantaguan, j'avais déjà plusieurs contacts qui existaient. Mais c'est Manantaguan, ça a été le moment pour moi où mon parcours professionnel a été là, tout à coup avec Manantaguan, extrêmement impliqué dans le milieu autochtone. Puis ça a été un bonheur pour moi au final. Je suis vraiment content d'avoir choisi d'investir Production Manantaguan avec mes deux collègues qui aussi ont vraiment pris ça à bras le corps. Tu en as parlé, Dave, ça demande beaucoup écrire du théâtre. On se plonge là-dedans. On est sans limite. À 5 heures, la journée n'est pas finie. Ça continue à travailler. Il y a quelque chose qui nous prend là-dedans. Puis ça a été vraiment, vraiment fort. Mais c'est une très bonne question que tu poses. Puis moi, quand je suis sorti de l'École nationale, justement, j'avais un diplôme à l'École nationale, une certaine fierté. Puis je me suis mis justement à m'intéresser à du théâtre qui était différent de ce qui m'avait été enseigné. On est allé notamment en Haïti au Festival international de théâtre là-bas. Au Nunavik aussi, j'ai eu la chance d'aller travailler là-bas. Bref, aller dans différentes communautés. Et ce que j'ai réalisé, la première chose que j'ai réalisé, c'est que finalement, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Et ça a été ma première réalisation, mon ignorance à quelque part. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait d'autres façons de faire du théâtre, mais tellement à des kilomètres de ce que moi, on m'avait enseigné. Mais au final, c'est encore plus hot, c'est encore plus trippant que je ne connaisse pas, parce que j'ai fini par faire des co-créations avec ces artistes-là, puis à découvrir une nouvelle. Fait que c'est comme si, à partir du moment que j'ai été diplômé, j'ai juste commencé à apprendre.
Par exemple?
Bien, c'est une très bonne. Par exemple, quand je donne souvent, parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnement pour le cinéma, pour la télévision, pour former des acteurs qui allaient avoir leur première expérience, puis de dire comment, ça a l'air facile jouer tout ça, mais il y a plusieurs trucs à apprendre. J'ai fait des programmes de formation pour des artistes autochtones, allochtones, pour ça. Puis déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on va dire pour le jeu d'un artiste en interprétation qu'il va être juste ou qu'il va être vrai. sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ah, lui, il est vrai, il est juste ça. Mais ça, c'est complètement faux. OK? C'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la justesse et la vérité dépendent d'une codification culturelle. C'est parce que je suis Québécois et que je connais des Québécois que la codification culturelle des Québécois me touche. Si je suis en Haïti avec un dramaturge haïtien, un artiste haïtien et un public haïtien, je suis dans une autre codification culturelle complètement différente. Donc, l'erreur, c'est d'inviter un Haïtien en audition et de dire « il joue gros ». Gros exemple, tu sais, quelqu'un qui dirait « ah, il s'exprime, il a parlé fort, il a fait des grands gestes ». Oui, mais si lui, c'est sa façon de s'exprimer, c'est vrai, c'est juste… Peut-être que c'est juste ta vision à toi qui est, c'est, comment je dirais, c'est comme si le piège, c'est de penser que sa codification culturelle à soi est le gros bon sens et la bonne affaire. Puis que si tu sors de ça, c'est que c'est pas correct. Mais non, en fait, c'est un autre univers, c'est un autre monde. Ceci dit, énormément, aujourd'hui, on est chanceux au Québec avec le nouveau courant, énormément d'artistes de plusieurs communautés différentes ont vraiment pris une place signifiante. Puis moi, je pense que c'était le temps parce que ça a amené un rééquilibre dont on avait besoin dans le milieu culturel.
Mais je peux-tu répondre vite à oui. Xavier? Parce que,
oui, rapide,
oui, oui, rapido. Mais c'est bon ce que tu dis parce que longtemps, on dit que quand on faisait ses productions, on jugeait qu'il manquait parfois de professionnalisme. Et ça vient à ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a une manière de jouer qui est différente. On ne peut pas demander à tout le monde, encore une fois, d'être égaux puis d'avoir fait l'école de théâtre pour jouer. Mm-hmm. Mais il y a cette sensibilité-là et cette vérité-là qu'on peut avoir sur scène, même si on n'est pas passé par une école. Et le meilleur exemple, c'est Roger, avec qui, encore une fois, qu'on a fait la cendre. Roger avait une présence qui était incroyable.
Débordante.
Mais il n'y a pas une technique de jeu à une palette très, très large, là. Mais il était là à chaque soir.
Sébastien.
Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important d'être ouvert à l'autre. J'aime bien l'expression de codification culturelle, oui, de se dire c'est pas moi, c'est pas mes codes à moi, mes références qui sont les meilleures ou les premières. Ce sont deux codes différents. Alors oui, l'ouverture. Et puis je disais tout à l'heure que j'ai un exemple. On faisait pas des masterclass, mais on faisait des rencontres de présentation d'instruments, etc. pour les jeunes des communautés. Mais en même temps, on a eu notre percussionniste solo qui s'est pris une leçon de percussion traditionnelle avec donc Akinissi qui était, ça s'est passé je pense à Coujoir à Pic. Elle lui a donné, j'ai oublié le nom de ce tambour traditionnel, et devant la communauté, elle lui a donné une leçon de comment jouer de ce tambour. Et Serge, avec beaucoup d'humilité, il s'en est très bien sorti d'ailleurs, mais avec beaucoup d'humilité, il posait des questions, il essayait de répondre à ses conseils de comment utiliser l'instrument. J'ai trouvé ce moment très fort parce qu'en fait, c'était ça qu'on voulait. C'était pas arriver en disant « regardez qui on est, puis voilà, c'est quoi un violon ?» On voulait apprendre de l'autre, on voulait échanger. Et c'est aussi la raison pour laquelle, au tout début du projet, on a décidé avec Avatak d'envoyer Ivouivik, donc la communauté la plus au nord du Nunavik, d'envoyer Thompson et Matthew passer 5 jours, là c'était en décembre, pour le coup c'était vraiment au cœur de l'hiver, passer 5 jours avec les aînés, avec la communauté, mais pas dans l'idée de créer quelque chose, ou de simplement pour faire la rencontre, pour que Matthew et effectivement Thompson, qui n'est pas inuit, apprennent un peu comment... La dynamique avec les personnes, comment c'est quoi la vie de tous les jours dans ces communautés au cœur de l'hiver. Il y a quelques images qui ont été faites avec l'équipe vidéo, mais on les voit à un moment, ils sont sur la banquise, puis il y a les deux chanteuses de gorge qui font un chant improvisé. C'était ça l'objectif de ce premier voyage. C'était pas du tout de commencer à créer, à penser à l'œuvre, c'était juste de faciliter la rencontre pour que Thompson et Matthew se nourrissent de ces 5 jours dans leur processus créatif.
Oui. Donc, nous sommes toujours en compagnie de Xavier Huard de la compagnie Théâtre Minondaguen, Sébastien Allemand de l'Orchestre symphonique de Montréal et de Dave Jenis de la compagnie Théâtre Ondinoc. Je vais poursuivre, je vais vous lancer parce que Xavier a parlé de codification culturelle puis de lecture des codes culturels. Je trouve ça intéressant parce que je me suis demandé sur le coup, est-ce que les gens, bon, là on va parler du Québec parce qu'on est ici, est-ce que les gens sont prêts à accueillir d'autres modes de représentation sur scène qui ne correspondent pas à leur connaissance d'une lecture théâtrale. Je ne sais pas si j'utilise exactement les bons mots en... Mais est-ce que les Québécois ou les gens au Québec sont prêts à ça?
C'est différent. Moi, j'ai remarqué dans la dernière création qui était Alter Indien, parce que c'était une comédie, fait qu'on le sentait avec la réponse du public. Oui, alternative. Et la réaction était différente dans ces façons de faire-là, un peu comme tu viens de le dire, Sébastien, d'avoir pris le temps d'aller rencontrer avant. Ça, c'est un bon exemple d'une façon de faire qui vient des artistes autochtones de faire ce premier temps-là. Tu sais, je trouve que ça a été très brillant de votre part de faire ça, parce que je suis sûr que ça a été la base de tout votre projet après ça. Puis pour mon exemple, excuse-moi, j'ai oublié de montrer mes autres photos tantôt. Ça évoquerait, j'ai été déstabilisé, je ne sais pas, je n'ai pas montré. Mais je vais les montrer, puis je vais pouvoir vous parler, parce que mon exemple, c'est Leslie Velasquez. Ondinoc aussi a engagé cette actrice-là au début, quand elle est arrivée, puis aussi Manantaguan pour Alternative. Et là, on pourrait un autre exemple de différence de codification culturelle. Pour les troupes autochtones, d'avoir une immigrante de première génération, donc qui a un accent, qui vient du Mexique, donc qui a un accent prononcé. Ben pour les troupes autochtones, avoir quelqu'un qui va jouer quelqu'un du Québec, même s'il y a un accent, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu de crédibilité du casting par rapport à ça. Ça ne va pas déranger le public. Vraiment, les artistes autochtones ne vont pas se dire « Ah non, c'est pas crédible qu'elle joue un personnage qui vient de Montréal si elle a un accent prononcé du Mexique. » Tu comprends? Fait que c'est comme des enjeux de crédibilité qui viennent vraiment du naturaliste, là, qui vient d'une codification, d'une esthétique, qui pour les Autochtones n'est pas grave, mais chez les Allochtones, là, tout à coup, ça devient bien important, ces affaires-là, puis oh là là, non, ça ne marche pas, puis tout ça, puis on ne sait pas trop pourquoi. Sauf que, étonnamment, Leslie Velasquez, dans le terre indien, elle faisait une activiste, fait qu'elle avait des belles envolées, puis elle avait une belle répartie de personnages. Et vous dire la charge de la nouvelle génération en arrière de ça, c'était un feu. En plus, c'était une disposition à 360 degrés. Et clairement, ils étaient prêts à accepter ça. Eux autres, ça n'avait pas dérangé personne, mais c'est sûr que ça a été un commentaire qui m'a été dit par peut-être plus une clientèle,
admettons, un public.
Ou des gens qui sont des acteurs du milieu culturel depuis très longtemps, puis que ça fait peut-être très longtemps qu'ils pensent les choses d'une certaine façon. Puis là, tout à coup, tu les déstabilises. Puis justement, c'est un peu comme ce qui vient, c'est comme si ça sortait d'un gros bon sens. C'est ça qui, des fois, tu fais non, c'est pas une affaire de gros bon sens. C'est juste une vision différente, mais aussi qui est bonne, puis qu'il y a un public qui va triper vraiment, puis ça. Bref, ça, c'est pas grave, en fait. C'est juste ça, tu sais. Il ne faut pas normaliser puis tout taper pour que tout soit droit. C'est un peu ça, un peu, des fois, dans cette... Donc, là, on a Étienne. Puis ça, c'est dans le terre indien. Peut-être je vais me montrer les autres photos. Ici, on a Charles Buckle Robertson.
Oui.
Là, vous voyez...
De
Mashtoyat. Donc là, ça, c'était une conception d'éclairage de Gonzalo Soldi, qui lui est originaire du Lima au Pérou, qui est un grand éclairagiste, qui d'ailleurs n'a pas travaillé avec... Et avec l'acteur qui fait une danse avec l'éclairage. Fait que c'est des moments d'éclairage et de danse traditionnelle dans une pièce contemporaine. Vous pouvez voir ici dans le milieu, c'est elle, Leslie Velasquez, l'actrice dont je vous parlais.
Ouais.
Ça, c'était une super pièce avec six acteurs en 360.
Donc, le public est tout autour de...
Oui, exact. Et vous avez ici Violette Chauveau. Quand même, on avait dans ce spectacle-là Violette Chauveau et Marie-Josée Bastien. Marie-Josée qui est de Wendake. Donc, c'était quand même intéressant. Il y a beaucoup de transmissions qui se fait dans les spectacles, hein. Fait que de créer des shows, d'avoir des aînés présents dans vos processus, puis nous aussi, si ce n'est pas des aînés, des fois, ça va être des acteurs qui ont beaucoup d'expérience, comme Marie-Josée Bastien, comme Violette, pour continuer à progresser. Ça, c'est un autre spectacle qui est une mise en scène dans les premiers spectacles de Soleil Launière. Une autre artiste, Inou de Mashtoyach, qui a travaillé avec Ondinoc, après ça avec Manantaguan. Maintenant, elle a sa propre compagnie. Quand même, c'est quand même incroyable quand on regarde ça avec le recul, tout ce qu'elle a accompli, cette artiste-là. Ça, peut-être je peux finir avec ça, présenter. C'est peut faire un lien avec le festival. On est en représentation lundi prochain, ici, à 20h30, sur la place des festivals. Encore une fois, le pouvoir de mélanger les univers, c'est un aîné qui vient de la communauté de Malio-Tenam, qui est un survivant des pensionnats, qui raconte son histoire sur scène. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Ça va être sur la place des festivals avec les projections du vidéaste Réal Junior Leblanc. Donc, là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui vit en communauté, mais qui a quelque chose, un message à transmettre. Puis nous, on l'a accompagné pour faire une œuvre théâtrale avec ça. Puis ça, c'est un bon exemple de spectacle qui va, on espère, là, mais on va travailler fort pour ça, tourner dans le plus de communautés possible, justement parce que les éléments logistiques vont être plus simples. Ça va nous permettre de le faire. Fait que voilà, c'est ça pour donner un petit exemple par rapport à pour rebondir, mais c'est très intéressant, vraiment.
La question voilà. Des codes culturels puis d'accepter, parce qu'on voit de plus en plus de visages différents, bon, du moins au petit écran un peu. Je suis pas très petit écran quand même, là, mais on le voit de plus en plus. Au théâtre aussi, on voit de plus en plus des gens qui sont de différentes régions à travers le monde et on voit de plus en plus d'Autochtones. Ça crée beaucoup de pression, vous l'avez dit dernièrement.
Ah oui.
Ça crée beaucoup de pression pour les communautés d'avoir des acteurs, des éclairagistes, des costumiers, des gens qui peuvent faire de la mise en scène, etc.
Ben oui, il y a une pression, c'est sûr. Puis,
les gens sont extrêmement chargés. J'essaie de prendre des rendez-vous avec les acteurs,
ça.
Je ne suis pas capable.
Mais ce qui va arriver... C'est ce qui va arriver à un moment donné. Comme je disais tantôt, on va frapper un mur et les gens commencent à être fatigués. Bon, on ne se plaint pas, on travaille, là. Mais c'est qu'à un moment donné, exemple Charles Bender, avec qui a travaillé avec nous chez Ondinoc pendant longtemps, il travaille encore, mais Charles, il joue dans 3 shows. T'sais, il joue dans 2 spectacles avec moi et avec Xavier dans sa compagnie. Mais là, à un moment donné, on l'aime Charles, là, mais on veut le garder. Là, on veut le garder avec nous. Mais pour parler des codes, là, ben, quand on a fait la cendre à la licorne, la cendre de ses os, ça prenait 10 minutes avant que la première personne parle sur scène. Donc, moi, j'ai amené une lenteur avec ce spectacle-là, tout le long du spectacle. Très, très, très lent. Changement de scène. Tout le monde était sur scène aussi. Ça allait toujours dans des déplacements circulaires sur une espèce de plateforme. Je ne sais pas si on a une photo. J'avais une photo tantôt, mais ça déstabilise parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Hey, on va au théâtre parce qu'on aime ça quand ça parle, puis ça bouge, puis ça va vite. Non, c'est un spectacle qui doit revenir à la base de ce qu'Ondinoc a fait comme travail. Ce théâtre un peu plus mythique, ancestral, que j'ai toujours gardé dans mes productions, même si c'est un peu du théâtre contemporain, c'est important de garder ce que j'ai appris à mon passage chez Ondinoc depuis 2002, d'amener ce côté lent-là, puis de montrer qu'on a une façon aussi de créer qui est différente. Mais ça amène toujours un nouveau public, mais il y a une curiosité de plus en plus, ça c'est sûr, par cette nouvelle génération de gens qui sont attirés par... voilà, on voit ici un des acteurs qui était sur scène. Donc ça c'est... j'ai un trou de mémoire. C'est Nicolas Gendron, qui est québécois, mais qui a découvert, il le savait depuis longtemps, mais qu'il avait un papa du Guatemala. Donc, toute la question identitaire dans laquelle je baigne beaucoup avec la compagnie, merci, ça lui parlait énormément. Puis je trouvais que c'était intéressant qu'il vienne dans le projet justement pour ça, parce qu'il était dans ce processus-là de découvrir vraiment son identité du côté de son père. Donc, mais tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle génération de gens universitaires, des jeunes qui sont vraiment ouverts d'esprit, qui sont là, qui sont curieux. Puis on espère que les nouveaux directeurs artistiques des théâtres institutionnels vont suivre aussi je trouve qu'il y a une belle ouverture qui se fait présentement.
Oui, c'est ça, que ça ne sera pas de mettre les gens dans une boîte. On a parlé un petit peu de formation. Je me demandais, est-ce que pour... Vous avez parlé de formation, Sébastien Lemont, avec formation de Thomson Highway pour monter au Nunavik. Est-ce que les musiciens ont eu une formation sur le Nunavik? Est-ce que vous préparez vos musiciens à se rendre là, au-delà des aspects techniques, là, d'un point de vue culturel, puis historique, sociologique? Est-ce que vous préparez les gens à aller là?
Ben, c'est important, oui. Puis on a choisi en priorité les musiciens qui étaient partis en 2008, qui avaient déjà eu l'expérience du Nunavik 10 ans avant. Et puis, c'est pas une formation que pour les musiciens, d'ailleurs, c'est aussi pour le staff hein, de l'OSM, ceux qui partent comme moi, mais aussi ceux de l'équipe qui travaillent sur les projets qu'on mène, pas forcément sur place, mais avec des artistes des communautés autochtones. Donc oui, on a eu une personne qui est venue faire une formation de quelques heures, et puis moi personnellement, j'ai beaucoup lu aussi. J'avais la chance de connaître Akinisi avant le projet. Donc, les discussions avec les équipes, etc. Mais oui, effectivement, c'est très important de se préparer, en fait, de se préparer, de savoir où on va. C'est pas le Nunavik, et c'est pas que le paysage, c'est aussi des gens, des communautés, des façons de vivre, de penser. Puis, on ne peut pas arriver comme ça, même si, tu sais, le principe de la tournée, c'est t'arrives, tu joues, tu pars. On a voulu éviter ça un petit peu en se disant, on va faire 2 jours par communauté au lieu de 1 jour comme on fait d'habitude. Mais on ne pouvait pas non plus rester beaucoup plus longtemps parce que le programme était chargé. On devait aussi aller, j'en ai pas parlé, mais dans la côte nord où l'orchestre était beaucoup plus important, il y a eu aussi toute une partie importante de cette tournée qui s'est déroulée avec un orchestre plus gros. Mais oui, c'est important effectivement de savoir où on met les pieds, de se préparer à la rencontre. En fait.
Il y avait beaucoup de questions de la part des musiciens sur l'histoire des Autochtones au Québec, au Canada. Moi, je sais que quand je vois, je suis enseignante à l'Université du Québec à Montréal, je vois des jeunes arriver qui ont 19-20 ans, qui disent qu'ils n'en ont pas appris encore assez. Et pourtant, les programmes ont changé, il me semble, depuis quelques années. Au secondaire et tout ça. Moi, quand j'étais plus jeune, bon, on apprenait à peu près rien. Puis avant ça, dans les écoles secondaires, les gens apprenaient encore moins de choses sur l'histoire des premiers peuples. Les musiciens, eux, comment est-ce qu'ils ont reçu ça? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils partaient? Ils étaient complètement... C'était tout nouveau pour eux.
Ben, ça dépendait en fait des personnes. Individuellement, oui, il y en a qui ont, comme je disais, qui ont lu ou autre. Le processus de création a duré quelques temps quand même avec la façon de, disons, quand ils ont côtoyé Akinisi ou Ernest ou Florent pour la partie Innu. Mais en fait, moi, j'ai énormément appris grâce au documentaire de Roger et Justin, Chakapesh, parce que en dehors de filmer la tournée, le processus de création, etc., ils ont donné beaucoup, beaucoup la parole à des artistes qui faisaient partie de la tournée, hein, Akinisi, Florent, mais vraiment entrevues sur leur expérience. On apprend énormément, par exemple, le témoignage de Florent Volant. Ça nous amène au bord des larmes là, de comprendre c'est quoi un pensionnat, qu'est-ce que ça veut dire concrètement lui dans sa famille, dans sa vie. Oui, on sait ce que c'était, mais quand c'est incarné, et en plus il en parlait vraiment de façon superbe, ou Evie Mark, une chanteuse de gorge, ces deux moments du documentaire étaient vraiment déchirants parce qu'on se dit c'est des gens que j'ai côtoyés pendant plusieurs semaines et on n'a aucune idée de par où ils sont passés, eux et leur famille. Donc oui, j'engage vraiment les gens qui peuvent à voir ce documentaire. Je pense qu'on apprend énormément sur le projet de Chakapesh, mais aussi sur l'histoire de ce qui s'est passé au Québec et au Canada.
On pourrait mettre le lien vers l'information du documentaire en ligne pour ceux qui nous accompagnent et qui sont en ligne avec nous, soit en direct ou... qui vont l'écouter en différé un peu plus tard au courant de la journée, au courant du festival. Donc, on va terminer bientôt. Il nous reste peut-être une trentaine de minutes pour échanger sur justement ces tournées-là en collectivité. On a parlé un peu de la rencontre avec les gens. On a parlé un peu des difficultés des fois à établir le contact et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous direz non, non, ça, là, ça ne fonctionne pas? Plusieurs l'ont essayé avant moi, ça ne fonctionne pas, Xavier Huard?
C'est sûrement plusieurs angles à prendre là-dessus là, pour nommer ce qui ne fonctionne pas. Mais clairement, il y a certains effets qui font que. Je pourrais parler de deux éléments, mais je pense que principalement, il faut prendre conscience que. Pour le développement d'un artiste, d'un milieu, de différentes compagnies en théâtre, ça nous prend une vision écologique. Tu sais, tu parles de la formation va avoir un effet sur la diffusion dans les communautés, va avoir un effet sur comment, quelqu'un veut venir tourner, comment ça va être reçu, vous cherchez des auditions pour des acteurs, bien, il y a eu des films qui ont été faits dans la communauté ici. C'est une espèce d'écologie d'avoir des acteurs d'avoir des lieux où il y a des acteurs plus vieux qui peuvent être avec des acteurs plus jeunes, des artistes, de mélanger tout ça, c'est vraiment ça qui est important. Au niveau de la formation, c'est fondamental. Clairement, la bonne piste pour moi, puis il y a des institutions qui le font, puis je ne veux pas être chauvin parce que je suis enseignant, moi, à l'École nationale, puis ils l'ont fait, ce virage-là, c'est au niveau des formateurs, d'avoir des formateurs qui sont autochtones, qui sont de la communauté haïtienne, qui est une des plus grosses... de la diaspora, il faut mettre ces changements-là. Puis quand les professeurs, quand on va faire des changements au niveau du corps professoral, ça va se passer aussi au niveau des étudiants, et ça se passe déjà là, au niveau des étudiants, on le voit. Puis ça, c'est tellement important. Fait que tout ce qui est en dehors de cette pensée-là qu'on pourrait dire plus écologique, là, dans le sens qu'il y a plusieurs éléments qui interagissent les uns ensemble, puis c'est cette espèce de toile-là, de peau de tambour-là que tout le monde tient son petit bout qui nous permet d'avoir un milieu pour exister artistiquement, pour pouvoir collaborer entre allochtones et allochtones. Mais tout ce qui ne prend pas en considération ça peut être à deux tranchants. Un effet qui existe, là, que je nomme comme ça, qui est autant allochtone qu'autochtone, mais qui arrive qui va arriver à des artistes autochtones, c'est sûr, en ce moment, c'est l'effet que j'appelle un peu catapulte. C'est-à-dire que là, tout à coup, on veut des artistes. « Ah, toi, tu as 16 ans. Ah oui, tu es capable. Tu as fait de la poésie, je ne sais pas. » Puis let's go, bang, on te punk, puis on t'emmène premier rôle. Puis l'effet catapulte, là, tu parles, on ramasse dans ta communauté. Puis là, pendant 2 mois, là, tu vas être sur toutes les tribunes, puis on va parler que de toi. C'est pas bon pour la psyché humaine. C'est très dur de traverser ça puis de pour n'importe quel jeune. Puis je le sais, je l'ai vécu, moi, en sortant de l'école, j'ai eu accès à ça.
En haut de la vague, après ça, il y a en bas de la vague qui vient tout de suite après.
Mais s'il y a une troupe, s'il y a une gang, s'il y a plusieurs musiciens, s'il y a tout ça, il y a un effet de communauté, de collectif, puis c'est ça qui, après ça, devient un atout pour ce jeune artiste-là. Puis ça va être sa base pour tout le reste. Fait que si, après ça, il y a des beaux succès, mais ça va être super, mais quand ça va redescendre, il va avoir sa gang, il va aller au théâtre, il va avoir une répétition, une lecture d'un texte, puis ça va être tout le côté justement écologique qui va créer le lieu sain puis agréable pour ces artistes-là, puis qu'ils puissent continuer, tu sais, pour...
Ça, c'est une mise en garde là, pour ceux et celles qui sont dans le milieu de la production artistique, là. Soyez tendres avec ceux qui s'en viennent travailler avec vous, parce que parfois, on débute, hein? Il y en a qui débutent, là.
Oui. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Tu as dit beaucoup de choses qui...
J'ai dit, qu'est-ce qui ne marche pas?
Oui, mais il y a beaucoup de choses que Xavier a mentionnées que je suis parfaitement d'accord. Moi, il y a une question qu'on s'est posée chez Ondinoc, puis qui n'a peut-être pas nécessairement un lien avec qu'est-ce qui ne marche pas, mais je pense qu'il faut qu'on se la pose. Les fameuses distances entre les communautés, et notre empreinte écologique.
Géographique, oui. L'environnement.
À se déplacer en avion, à se déplacer en camion, c'est un questionnement qu'on doit se poser avec ce qui vient d'arriver et ce qui va venir. Je pense que la tournée va changer. La façon de tourner les spectacles va être différente. Je ne sais pas en quoi elle va être différente, mais on va devoir se questionner sur la manière de les faire et sur la longueur de les faire, peut-être. Mais ça, c'est la belle problématique qu'on a au Québec, des communautés qui sont à 500 km l'une de l'autre et qui n'ont presque pas de chemin pour y aller parfois. Donc, mais on ne peut pas s'empêcher d'aller vers ces communautés-là. Ils ont le droit d'avoir l'art aussi, d'avoir un accès à ce qu'on fait, puis à leur donner ce petit éveil-là qui pourrait leur donner le goût justement de venir travailler avec nous.
Oui, c'est ça, parce que des fois, ça prend un petit peu de synergie extérieure pour que des projets d'échange se produisent
en
communauté aussi. Oui. Les communautés très autonomes peuvent réussir à faire des beaux projets, c'est certain. Mais parfois, ils demandent également d'avoir un coup de pouce là, pour faire des projets collaboratifs.
Oui, sur le qu'est-ce qui ne marche pas, je dirais, je prendrais peut-être la question en contraste en disant qu'est-ce qui marche, quelles sont les conditions du succès en fait pour que ça fonctionne, une tournée en fait. Je dirais la première chose, c'est d'avoir l'humilité de dire je ne connais pas les lieux, je ne connais pas les gens et de savoir se faire accompagner. Ça dépend évidemment d'où on part. Hein. Il y a des gens qui ont plus l'habitude, qui ont déjà été sur place, qui ont travaillé, mais moi je parle de mon expérience personnelle puis celle de l'orchestre. On ne connaissait pas les lieux, même si on y est allé en 2008. C'était quand même dans un contexte différent. Alors, si j'étais parti en pré-tournée tout seul en allant voir les maires des différentes communautés, puis en leur parlant du projet, la tournée n'aurait pas eu lieu. Tout simplement parce qu'on avait besoin de l'expertise de Avatac, du réseau de Avatac, qui connaît les lieux, qui connaît surtout les gens, qui savait à qui parler et quand, à quel moment du processus et comment, pour avoir un oui. Une fois que le chef de la communauté ou le maire a dit OK, après on arrive derrière, nous on travaille sur le contenu, sur la logistique, etc. Mais si on n'avait pas eu cette étape primordiale de départ, la tournée n'aurait pas eu lieu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? C'est parler aux bonnes personnes au départ et avoir l'humilité de dire je ne vous connais pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ça, je pense que c'est la première chose à faire pour démarrer un projet.
Quand on est l'Orchestre symphonique de Montréal, quand même, les portes doivent s'ouvrir quand même assez rapidement. Là. On n'est pas un sidame qui vient.
C'est sûr qu'on était attendu. Hein. On était l'objet d'une grande curiosité. Je pense qu'à Saint-Louis et puis Coup de joie à pic, pardon, je pense que toute la communauté était dans la salle. On est attendu. Il y avait l'aura aussi de Monsieur Nagano. Puis, il faut le dire, hein, lui-même l'a dit d'ailleurs. Il avait dit au chef de l'un des villages dans la première tournée. Il avait regardé, puis il avait dit, on est quand même peut-être cousins éloignés, hein, parce que c'est ça. Il avait quand même le type. Alors, les gens étaient curieux de le voir. Évidemment, le nom était connu, mais les gens étaient curieux de le voir. Il a eu effectivement son petit succès. Mais oui, les portes s'ouvrent, mais c'est pas pour ça que c'est plus facile. Parce que oui, la partie de l'organisation, etc., quand je suis arrivé en pré-tournée avec la personne d'Avatac, les gens nous attendaient, tout était organisé. Mais en même temps, il a fallu au départ avoir ce travail de conviction pour dire pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on vient faire. Et ça, c'était quand même une chose vraiment importante, même si on était l'OSM.
Oui, mais d'ailleurs, l'opéra Tchekapèche a été tellement fait en collaboration que ça a été un des exemples qui a été cité comme étant une collaboration où il n'y avait pas du tout d'appropriation culturelle. Donc, on était vraiment on était à cette époque.
C'est vrai, on a fait très attention à ça aussi.
Il est mort. On a perdu un peu le son.
Dans nos discussions initiales, on a fait très attention à ça, mais c'est quelque chose, oui, qui était important pour nous, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, ça fait l'une des raisons pour lesquelles on a dit, on voudrait que des artistes des communautés participent. C'est certain que le projet s'est fait vite, dans le sens où quand l'orchestre travaille sur un concert qui a lieu mercredi, il commence à répéter dimanche, 3 jours avant. Alors, on peut pas intégrer quelqu'un d'une communauté comme ça en 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'on a pris soin de choisir la personne. Et puis, dès qu'on est arrivé sur place, de travailler avec elle, de faire une petite formation ou une répétition, bien sûr, on aurait aimé en faire beaucoup plus. Mais dans les contraintes temporelles qu'on avait, ça n'a pas été possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne recommencera pas.
Non, c'est ça. J'ai parlé... j'ai glissé un mot sur l'appropriation culturelle. Est-ce que c'est des choses qui préoccupent quand même les échanges internationaux ou internationaux entre nations autochtones?
En tout cas, de mon côté, chez Ondinoc, on a pas trop, dans les dernières années, on s'est pas posé la question, en fait, depuis toute l'aventure de Canada, on s'est pas vraiment posé cette question-là, mais on fait beaucoup de coprod avec des compagnies non autochtones. Donc, à l'automne prochain, justement, on va être à l'espace libre avec une coproduction avec le nouveau théâtre expérimental. Puis ça, pour moi, c'est aussi une façon de comprendre l'autre, sa manière de travailler, puis de montrer aussi comment Ondinoc travaille, comment le théâtre autochtone a une façon d'approcher justement le théâtre qui est différent. Fait que pour moi, ça, c'est justement en faisant ça, en tendant la main à l'autre, en travaillant ensemble, qu'on ne tombe pas dans le piège justement de l'appropriation culturelle. C'est une façon de montrer justement comment notre vision, puis comment on peut travailler avec l'autre. Puis tout le monde est gagnant là-dedans.
Donc, c'est un travail qui n'est pas juste en amont, mais c'est sur le long terme, tout au long du projet, jusqu'à la fin,
oui.
Livrée.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, puis des fois, il y en a qui peuvent voir l'appropriation culturelle comme une limite, comme si on était limité. Mais moi, je le vois comme une absence de limite. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un contexte où clairement, il y a une réappropriation d'une prise de parole de la part des artistes. Enfin, les institutions qui existaient donnent plus de place à ces nations-là qui méritent d'avoir une place dans ces théâtres-là, parce que veut pas, un théâtre, ça a une fonction dans la société. Donc, s'ils n'ont pas leur place dans nos théâtres et dans les institutions existantes, c'est pas de la faute des artistes, c'est les institutions qui font pas leur travail parce qu'ils ont un rôle à jouer dans nos collectivités. Donc, où c'est que je m'en allais avec ça? J'ai perdu mon idée.
J'ai parlé d'appropriation.
Ah oui, c'est ça, l'appropriation culturelle. Oui, exactement. Je me suis perdu avec les institutions. Voilà, bien, c'est ça. Il faut qu'on leur fasse à leur place. Et l'appropriation, c'est quoi? L'appropriation culturelle, c'est quoi? Pour moi, c'est en ce moment, si on veut vraiment enlever des limites, c'est quoi? C'est on n'a pas le choix de ne pas impliquer. Si, mettons, tu décides, tu dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est Che Gabesh. Tu ne peux pas impliquer des artistes qui portent cette costume. En ce moment, fais-le, la limite n'est pas là. Va les voir, implique-les, mobilise. Prends un rôle plus humble dans cette création-là. Tu n'es pas obligé d'être le boss. Peut-être que ça va être encore bien plus intéressant si justement tu fais partie de cette équipe-là puis tu rames dans le canot au lieu d'être en arrière et de caler les shots. Tu sais, moi, je sais, je viens du milieu alloctone. Des fois, on est très productif, puis on est hiérarchique, puis let's go, ça y va, c'est efficace, ah ouais. Mais oui, c'est une façon de faire. À un moment donné, on peut sortir de ça, puis justement, accepter de se faire accompagner. J'ai bien aimé comment tu as dit ça, Sébastien, parce que veux pas, tu as des enjeux de sécurité, tu veux qu'il faut que le monde se nourrisse. Tu peux pas envoyer 45 personnes, une communauté, vider les épiceries, puis le monde là-bas, ils n'ont plus rien. Tu sais, ça peut arriver, là. C'est des vraies réalités, c'est des gros responsabilités, mais tu te laisses aller là-dedans, tu apprends sur toi-même en faisant ça. Bien, c'est ça un peu l'appropriation culturelle. Pour moi, c'est si tu vas impliquer la communauté, après ça, là, ce qui va ressortir de ça va tellement t'impressionner à des niveaux que tu n'as aucune idée que tu peux t'imaginer. Fait que c'est juste de s'enlever ces limites-là, puis de le faire, puis de traverser la rue, puis d'embarquer, puis de mobiliser. Puis voilà, c'est ça pour moi. Parce qu'après ça, il n'y en aura plus de limites. Il n'y en aura pas de... Si la majorité des artistes sont autochtones, tu te rends compte qu'il n'y a plus vraiment de... Tout ça est un gros melting pot, une grosse courte pointe, puis on n'est vraiment pas dans « OK, ça, tu peux, ça, tu peux pas. » C'est plus ça qui existe, là, vraiment pas.
On voit des grands changements, là, justement, en cinématographie actuellement avec des espèces de longs-métrages où les Autochtones prennent part à tous les aspects là, du film, de l'éclairage, des costumes, la mise en scène, la pensée, la manière des films traduits aussi, pas traduits, mais interprétés carrément dans des langues autochtones. Donc, on va terminer d'ici 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous aimeriez adresser aux personnes qui sont à l'avant? Je peux passer le micro.
C'est un peu difficile parce que je ne connais pas Je suis française, donc c'est un peu difficile parce que je ne connais pas bien, bien sûr, les autochtones. Donc, j'ai été étonnée donc, quand on vous avait dit que c'était des gens, dans des gamins dans des familles d'accueil. Pourquoi ils étaient dans des familles d'accueil? Bon, j'ai aucune idée non plus de le nombre de personnes dans une communauté. Est-ce que c'est des communautés, des villages de 100 personnes, de 500, de 50? Donc, bon, je suis un peu ignorante, quoi.
Mais c'est certain que les gens qui ont eu une base là, au Québec, au Canada, l'histoire des Autochtones au Canada, peuvent avoir une idée. Et habituellement, des communautés dans lesquelles on se promène, on nous navigue, ça peut être 200, 300 à 1000 personnes pour Koudjouak, 2000. Il y a des communautés autochtones, Mashtoyats, 3000, 4000, quelque chose comme ça. Mais on peut se retrouver dans des communautés beaucoup plus petites, par exemple, Pikogan, c'est quoi, 500, 600?
Ouais, je pourrais pas dire, mais c'est sûr que c'est différent d'une communauté à l'autre, puis tu sais, je ne veux pas embarquer dans toute la question sociale, mais oui, il y a encore beaucoup de problématiques dans certaines communautés et souvent, ça fait qu'il y a des enfants qui doivent quitter leur nid familial parce qu'il y a des problématiques sociales qui viennent peut-être...
du passé colonial.
Oui, puis mettre en danger ces jeunes-là. Donc, on aime mieux les retirer, les envoyer dans un foyer qui est supposément meilleur, mais qui fait que ces jeunes-là, comme je le disais, se posent beaucoup de questions sur leur identité puis aimeraient poursuivre et en connaître plus sur qui étaient leurs grands-parents et leurs parents. Mais c'est ça, c'est vraiment différent d'une communauté à l'autre. Puis ce qui arrive aussi, c'est que il y a vraiment une injustice dans le sens qu'il y a des communautés extrêmement riches qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Je pourrais en nommer, mais je ne veux pas. Et il y en a qui sont extrêmement pauvres. Il y a comme un balancement qui moi, encore aujourd'hui en 2022, qui vient me heurter dans mes valeurs humaines. Beaucoup, beaucoup d'injustice. J'ai beaucoup de difficultés avec ça, l'injustice.
C'est sûr que les problématiques, les difficultés sont issues de 400 ans de colonialisme, de politique coloniale comme la loi sur les Indiens, avec les différentes dispositions qui ont amené la répudiation des femmes autochtones qui se marient avec des non-autochtones, de certaines communautés, des enfants placés dans des pensionnats autochtones sur plus de 100 ans. Le dernier pensionnat était fermé en 1996. Et bon, l'histoire de la Commission Vérité et Réconciliation, dont le rapport a paru en 2015, et troublant là, de voir tous les abus. Et si le dernier pensionnat a fermé en 1996, on peut comprendre qu'encore aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas eu les compétences pour avoir des enfants, enseigner, accueillir, avoir une maison, etc., parce que ce n'était pas ça qu'ils apprenaient à l'intérieur de ces endroits-là. Il visait une assimilation avec énormément de violence culturelle, mais physique également. Là. Donc, j'essaie de brosser un portrait très rapide là, d'une histoire coloniale de 400 ans terrible. Je vous invite peut-être à lire ou regarder, feuilleter sur Internet le livre de la commission des droits du Québec, qui s'intitule « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », qui a été rédigé par M. Lepage. Il y a vraiment beaucoup d'informations historiques dans ce livre-là, de base, là, très accessible pour les jeunes, les gens qui veulent lire quelques pages ici et là.
Pour rebondir, j'ai pas choisi le bon. Mais pour rebondir à ce que vous avez dit, puis c'est super important, puis pour ajouter, au-delà de tout ça, les arts ont toujours accueilli des génies qui étaient dans des situations de vulnérabilité de tout horizon. Puis je me souviens à Abidjan, moi je le savais même pas, on me l'a dit après. Les policiers m'ont dit la celle qui a le rôle principal, puis sa sœur à côté là, qui ont les deux rôles, qui ont mobilisé toutes ces jeunes là. Puis ben c'est les deux de la gang qui ont le passé le plus chargé et difficile en difficulté. Donc, tu dis, ces jeunes-là, malgré ce passé-là difficile, c'est eux qui avaient la charge d'aller transmettre, d'aller exprimer. Et les arts vont toujours être un refuge pour tous ces gens-là, peu importe. Puis c'est clair que dans les œuvres qu'il va y avoir, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont être mobilisés dans toutes les œuvres à venir, qui n'ont peut-être pas encore fait la paix encore avec leur passé. Peut-être que ça va venir un peu plus tard, mais qui vont avoir un rôle à jouer, je suis certain, dans tout ce qui va s'en venir, c'est sûr.
L'art est un puissant guérisseur. On le dit souvent chez Ondinoc.
Oui, il y a énormément d'œuvres d'art, d'histoire, de littérature chez les peuples autochtones qui racontent ces histoires-là. Comment elle se nommait déjà la pièce de théâtre de Manon Dagan avec Mouillette? Ça permettait en fait d'avoir une rencontre là, entre les Québécois puis la réalité d'un jeune autochtone qui arrive.
Et même des fois, c'était le public, parce qu'on finissait, puis on ouvrait une discussion, et on avait des gens de la communauté. Par exemple, on était à Baie-Comeau, on avait un public autochtone, hyper présent, et dans la discussion, c'était les gens du public qui posaient des questions aux gens du public et qui répondaient. Et là, tout à coup, la salle de théâtre devenait juste un lieu d'échange pour notre collectivité. Puis tu te dis, tabarouette, quand on n'est pas dans des contextes de tragédie, de conflit, c'est trippant, on trippe. Pourquoi qu'on boudait notre plaisir au final, tu sais? Il y a comme ça aussi, puis tu sentais que ça faisait vraiment du bien, mais des fois, l'art est accessoire à quelque chose de plus grand que lui, tu sais, aussi. Ouais.
Le festival, c'est une belle occasion, justement, de voir comment les cultures autochtones, les autochtones, en sont venus à célébrer leurs connaissances, les savoirs être, les savoir-faire qu'ils ont appris, mais également aussi de prendre la parole pour dénoncer, affirmer, poser des questions, essayer de voir les choses autrement. Donc, c'est une superbe plateforme et je vais terminer avec ça. Je vais vous remercier beaucoup de votre présence, de votre générosité, de vos idées. J'espère que les gens qui nous ont écoutés à la maison, au bureau, sur Internet, je ne sais pas où, là. Si vous êtes au bureau, là.
C'est un petit matin au bureau.
Mais ça se peut, hein?
C'est juste les artistes qui font ça.
Les professeurs d'université, je vous garantis. Donc, ceux qui nous ont écoutés, puis qui avaient pris, appris beaucoup de choses sur comment développer des collaborations, comment s'organiser pour aller dans les collectivités. Des petites choses à éviter, hein, les projets catapultes, là, ça, c'est peut-être moins. J'aimerais remercier Xavier Huard, qui est de la compagnie Manoendagwan, Tchinashkumiten. Sébastien Almond, directeur des opérations artistiques et du développement international de l'Orchestre symphonique de Montréal, Tchinashkumiten, et puis Dave Janis, j'ai mélangé les deux, Dave Janis de la production Ondinoc, Tchinashkumiten.
Really one. Merci.
Yamé. Oui, je vais passer la parole à Gabrielle Bergeron, qui est de l'équipe de présence autochtone.
Bien, merci beaucoup là, pour la belle causerie. Merci. Pardon. Donc, comme je disais, merci beaucoup là, pour la belle discussion, la belle causerie. Je voulais juste vous inviter tous vous ici présents, ainsi que les personnes qui ont assisté. Il y a une consultation publique organisée par Radio-Canada qui va avoir lieu là, à midi dans la salle Clark juste à côté. Donc, vous êtes tous les bienvenus là, si vous voulez participer. Alors, voilà, merci beaucoup.
Merci, Gabrielle. Donc, causerie avec Radio-Canada, si vous le souhaitez. Je m'appelle Caroline Nepton-Hutt. Je suis professeure en histoire de l'art au département à l'Université du Québec à Montréal. Je vous remercie.